tu es prof de chant, tu enseignes depuis 2 ou 3 ans. Ah, okay.
Depuis, ça va faire 2 ans et demi, depuis la rentrée
2 ans et demi.
de 2010.
Puis tu donnes également des cours privés et surtout tu fais beaucoup de concerts.
Voilà, ouais, ça dépend des périodes, c'est pas toujours pareil, mais c'est vrai que quelques concerts, environ 50% d'enseignement et puis 50% d'activité de scène, on dira.
Métier d'enseignant, et en particulier j'aimerais savoir comment se déroule une leçon.
Alors je dirais la première chose qu'on fait quand un élève arrive, déjà c'est important de s'enquérir un tout petit peu de son état de santé, de son état général, s'il est en bonne forme, parce que le chant c'est quand même un truc particulier qui... Voilà, un pianiste qui va jouer une invention à deux voix devant son prof au cours de piano, il va peut-être pas, c'est peut-être pas très important s'il a un rôti sur l'estomac, il a mal digéré, enfin c'est pas forcément quelque chose qui peut interférer autant que dans le chant, ce qui fait que en général je prends toujours un petit peu de temps pour demander comment ça va, si la carcasse fonctionne, enfin si le corps va bien, si la personne est en bonne forme. Puis après on commence directement, ben, par exemple si l'élève a déjà chanté parce qu'il avait du temps pour s'exercer avant qu'il a fait son entraînement entre guillemets, pour chanter, pour émettre des sons, pour communiquer avec un public, pour... Exactement. Votre instrument, ben, vous l'avez toujours avec vous. Les chanteurs ont toujours leur instrument avec vous, avec eux. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on le porte avec soi qu'on le porte vraiment tout le temps.
C'est ça.
C'est-à-dire, des jours, vous avez un instrument qui est, si je prends une comparaison avec des instruments à cordes, ben, une bonne voix, je dirais un baryton ou un ténor qui violoncelle. Un jour, il a l'impression d'avoir son violoncelle avec lui, puis il commence à chanter, puis le violoncelle est là, un beau violoncelle avec bien brillant, tout super. Puis un autre jour, il a peut-être l'impression d'avoir un alto dans les mains, même qu'il a le même instrument, parce que la voix est plus courte, parce qu'il a peut-être justement pas bien dormi, ou bien qu'il y a d'autres facteurs qui viennent déranger un petit peu son état général. Son instrument sera moins brillant, l'ambitus sera moins large, il y aura plus de peine à monter, à descendre aussi. Un autre jour, ça sera peut-être encore plus petit, c'est très variable en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Il n'y a pas que l'état non plus général physique, il y a aussi l'habitude, parce que quelqu'un qui travaille d'une semaine à l'autre de temps en temps chez lui, ou bien quelqu'un qui n'en fiche pas une et puis qui fait que son travail à la leçon, ça s'entend, parce qu'en général, on retrouve un petit peu l'instrument aux mêmes endroits qu'on l'a laissé avant. Donc c'est vrai que ce travail-là, c'est court dans la session de travail, mais c'est important d'avoir je dirais une oreille assez réactive. Dès qu'on entend quelque chose, se dire, voilà, qu'est-ce qui est en place physiquement, qu'est-ce qui n'est pas en place physiquement? Qu'est-ce qui est en place au niveau du souffle? Qu'est-ce qui n'est pas en place au niveau du souffle? Qu'est-ce que je corrige pour qu'on arrive à avoir l'instrument tel qu'on a le clavier du piano devant soi?
D'accord.
Et puis après, ben, y a toute la phase technique plus précise par rapport aux recherches du son. Et puis après, je dirais la troisième phase d'une leçon, donc c'est plutôt l'aspect interprétation, répertoire, etc. Donc en général, je planifie trois choses. Une activité, un peu une analyse corporelle, une anamnèse corporelle, associée à toutes les questions respiratoires, et un travail, disons, répertoire, ça fait deux ou trois, ça dépend. Donc corps, souffle et répertoire. Corps,
D'accord.
souffle, voix, répertoire, disons.
Maintenant, peut-être une question qui ne concerne pas l'organisation, enfin la planification d'un cours, mais est-ce que ça change de travailler avec un ténor ou bien une femme? J'imagine que voilà, les repères ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça change fondamentalement ou pas?
Alors, je dirais, ça, dans un sens, oui, dans un sens, non. Par expérience, pour avoir travaillé en études avec des voix différentes de la mienne, je trouve qu'il y a des similitudes et des choses différentes d'un côté et de l'autre. Je m'explique. Si on travaille, par exemple, j'ai travaillé avec un baryton basse pendant un certain nombre d'années, c'est clair qu'on n'a pas les passages aux mêmes endroits, la voix n'a pas les mêmes registres aux mêmes endroits, la couleur de la voix n'est pas la même, donc les palettes d'expression au niveau coloration vocale ne sont pas les mêmes chez un baryton que chez un ténor, ça c'est sûr. Sont pas les mêmes, encore moins les mêmes chez un baryton que chez une soprano. Donc voix d'homme, voix de femme, c'est clair qu'il y a un changement. Mais je dirais que par rapport à la technique générale, ce qu'on fait pour établir un instrument qui marche, qui soit fiable, avec lequel on puisse chanter et on puisse travailler, que ce soit une basse, une alto, un soprano, un ténor, la technique, une bonne technique saine
Ça
pour
reste la
monter,
même.
pour descendre, elle reste la même. C'est-à-dire que les choses sont simplement géographiquement placées différemment. Les passages sont à des endroits différents, les changements de registre, donc du coup, les mécaniques sont quand même pareilles, mais décalées dans la hauteur, c'est tout. Donc si
D'accord.
on commence à jouer une gamme de piano, ben, fa sur un piano, on commence avec la note fa. Puis si on joue une gamme majeure de si, ben, on commence avec la note si, mais ça reste toujours une gamme majeure. Ça
D'accord,
reste toujours le
ouais.
son du piano. Donc c'est pas vraiment différent, c'est différent un petit peu au niveau géographique.
Ok. Puis après, moi j'imagine qu'il y a aussi, par exemple, si tu travailles avec un ténor, vu que. Est-ce que l'élève aura tendance à prendre un peu par mimétisme?
Voilà.
Je me suis souvent posé la question.
Ça,
Est-ce qu'il y a
c'est une.
ce, est-ce qu'on rencontre ce phénomène? Est-ce que par exemple, tu lui montres un exercice, lui il aura tendance à. Il va peut-être pas comprendre ce qu'il doit faire corporellement, mais il va essayer de copier un petit peu le son qu'il a entendu.
Alors ça,
Je pense que
c'est une
c'est.
question absolument pertinente. Le truc, c'est que il y a de tout. On peut se mettre des deux côtés. On peut se dire c'est bien parce que il y a une possibilité de comparer et puis de dire le résultat sonore est tel. Donc du coup, je vais faire en sorte que ça sonne comme lui ou comme elle si c'est un soprano qui travaille chez un soprano. Ça peut marcher parce qu'il y a des gens avec qui ça marche parce qu'ils ont l'image du son. Et puis ils émettent le son, et puis dans l'émission ils se rendent compte que ça va, parce que c'est libre, parce qu'ils ont la voix qui marche, parce que le son était bien, donc du coup la cause devient conséquence. Puis ça peut être aussi le
Un
contraire.
danger aussi, je pense, ouais.
Exactement. Et puis alors ça va avec les gens qui arrivent à disons à qui arrivent à se disons Il faut faire attention quand on parle de mimétisme, c'est on peut imiter, on peut faire comme le prof, comme la personne qui donne l'exemple vocal, et puis le faire en toute santé.